Session sur le regard du philosophe sur la paternité de Dieu par le père Marie-Dominique Philippe, deuxième conférence, le 5 juillet 2001 à Saint-Jodard.
La paternité de Dieu sur nous, créant des êtres spirituels capable de développer leur intelligence et leur volonté. C'est en coopérant avec le bon plaisir de Dieu sur nous, qui est de nous conduire vers notre bien. Lorsque nous avons l'intention de chercher la vérité, d'aimer ce que nous devons aimer légitimement, nous coopérons avec Dieu comme Père. On ne s'en aperçoit pas. Dieu est un Dieu caché. On ne s'aperçoit pas que Dieu a créé mon âme. On ne s'aperçoit pas que Dieu nous soutient dans l'être. Nous le découvrons progressivement. Et on le découvre grâce à une connaissance métaphysique. Et peu de personnes le découvrent vraiment. Il faut le dire, c'est vrai. On devrait tous avoir ce souci de voir que on a quelque chose en nous de merveilleux, une intelligence capable de se développer et de découvrir celui qui est à l'origine de notre vie spirituelle, de notre âme. Très peu d'hommes ont vraiment ce souci. Mais c'est vraiment un Dieu caché qui se manifeste à nous à travers la splendeur du monde. Si on s'interroge, qui se manifeste à nous à travers cet univers qui se manifeste à nous, à travers notre ami, à travers ceux que nous aimons. Mais très souvent, nous nous contentons d'admirer ce qui est devant nous, devant nos yeux, ce que nous entendons. De nous arrêter à notre ami, à nos amis, et de pas aller plus loin. Et Dieu, de temps en temps, nous réveille dans notre vie. Pour chacun d'entre nous, il y a des moments comme ça où tout ce qui va bien s'arrête et brusquement, on est en face de quelque chose de tout autre et qui nous fait poser des questions. Ou on rencontre quelqu'un, ou on suit une session. Si on rencontrait quelqu'un et on se pose des questions et on ne s'est posé pas avant. Dieu est un Dieu caché. Et ça, philosophiquement, c'est très vrai. Pourquoi Dieu se cache-t-il tant quand il nous aime avec cette profondeur? Alors, évidemment, il y a la réponse surnaturelle. Dieu nous aime et a envoyé son Fils pour nous apprendre à aimer, nous apprendre à découvrir et à nous demander d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. C'est sûr, il y a ça. Mais il y a combien de personnes qui vraiment vivent de leur foi, de leur espérance et de l'amour. Combien de personnes qui, au point de vue naturel, développent leur intelligence dans un sens d'une recherche de vérité, développent leur cœur d'une manière telle qu'ils arrivent vraiment à l'amour d'amitié. Dieu cherche la qualité, hein, plutôt que le suffrage universel, plutôt que la quantité. Mais il ne faut pas croire alors que Dieu laisse tomber toute une quantité de personnes et qu'il y a une petite élite. Non, le gouvernement de Dieu est paternel. Donc, il n'est pas à chercher une élite. Ce sont les hommes qui cherchent des élites. Dieu ne cherche pas des élites. Parce qu'il est père. Alors, il ne cherche pas une élite intellectuelle, une élite d'amour, de point de vue amour, volontaire. Il est celui qui nous aime tendrement, tendrement, et qui nous indique la voie qu'on doit suivre. Cette recherche de la vérité qui nous apprend à nous arrêter, à aimer. Et il ne le fait pas du tout dans un sens d'élitisme, non. En nous montrant que ce sont quelquefois ceux que le monde méprise ou néglige, qui sont pour lui les plus proches, les plus intéressants, si j'ose dire. Mais c'est très vrai que c'est un Dieu caché. Et ça fait partie du gouvernement de Dieu, ça. Ça fait partie, j'allais dire, des mœurs de Dieu. Si on peut appeler des mœurs de Dieu, des mœurs du Créateur Tout-Puissant, qui sont tout à fait inverses des mœurs humaines qui cherchent toujours la gloire. Dieu cherche avant tout que nous l'aimions et que nous le connaissions, que nous arrivions à découvrir que lorsqu'il s'agit des réalités supérieures, c'est-à-dire de Dieu, de lui-même, nous comprenions que l'amour spirituel que nous pouvons avoir pour Dieu nous rapproche de lui plus que notre intelligence. Déjà, voyez, cet axiome, cette loi, montre bien que ce n'est pas une loi d'élitisme. Une loi d'élitisme, c'est tout autre. Je me souviens, alors là, il s'agissait d'un point de vue surnaturel, quand j'étais à Fribourg, au début de la communauté Saint-Jean, m'est arrivé quelqu'un me demandant de voir un étudiant de Paris, quelqu'un de 25 ans, extrêmement brillant, polytechnicien, ayant deux diplômes, deux doctorats, et vraiment ayant un désir de vérité très grand. Il dit, j'ai appris qu'il y avait un ordre religieux qui avait un très grand amour de la recherche de la vérité. J'ai cet amour-là. Alors, peut-être, j'ai essayé de voir chez lui, j'étais vraiment quelqu'un qui voulait une sélection, un élitisme intellectuel poussé le plus possible, pensant que nous étions pour une recherche de vérité, toute vérité, c'était ça notre critère. Alors quand j'ai commencé à parler de la charité, du spirituel, de l'amour d'amitié, la charité fraternelle, et vu qu'il ouvrait de grands yeux, je lui ai dit, mais c'est ça la vie religieuse. La vie religieuse, on met l'amour au-dessus de l'intelligence. Parce que on sait que lorsqu'il s'agit de Dieu, il valait mieux l'aimer que s'attacher à tout prix à pousser notre intelligence le plus qu'on pouvait. Si bien que il est parti le soir complètement déçu. Ah, je croyais que vous cherchiez une race intellectuelle purement intelligente. Je dis non, c'est pas ça. On aime la recherche de la vérité, mais on sait que lorsqu'il s'agit de Dieu, l'amour va plus loin que l'intelligence. Et qu'on a une proximité. C'est vrai même humainement, hein. C'est vrai philosophiquement, ça. C'est pas surnaturel, où on dirait encore plus, parce que c'est encore plus vrai pour notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne a ce devoir d'une recherche de la vérité. On n'est pas vraiment chrétien si on n'a pas le souci de chercher la vérité. On n'est peut-être pas coupable, parce qu'on a été mal éduqué. Mais dans la vie chrétienne, il faut avoir un souci philosophique. Le Saint-Père, dans l'encyclique Fides et Ratio, nous le dit explicitement. Si nous pouvons travailler notre philosophie, nous devons le faire. Souvent, il y a des difficultés pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas le travailler autant qu'ils le veulent. Et on doit, si on peut, et quand on est religieux, on peut plus facilement consacrer du temps à cette recherche de la vérité. Et on doit le faire, parce que c'est facile de se laisser prendre par une tas d'actions très charitables, très bonnes. Mais si Dieu nous demande une recherche de vérité pour le glorifier, il faut accepter. Et dans cette recherche de vérité, on sait que l'amour à l'égard de Dieu va plus loin. Et que Dieu nous demande d'aller toujours plus loin. raconte, et je crois que c'est vrai, ce que Thomas d'Aquin a dit à son frère très aimant, très aimé, Réginald, à la fin de sa vie, je ne veux plus écrire, je ne veux plus qu'aimer. Tout ce que j'ai dit de Dieu, c'est peu de choses comparativement à l'amour. Il a arrêté d'écrire pour uniquement aimer. C'est grand, ça, c'est très beau. Il faut être fidèle à la volonté de Dieu. Si Dieu n'était pas le premier éducateur de notre intelligence, le premier maître de notre intelligence, le premier père de notre intelligence, on ne pourrait pas faire ça. Mais parce qu'il est le père de notre intelligence, il nous fait comprendre que ce qu'il y a de plus grand dans l'intelligence, c'est de permettre à l'amour d'être plus spirituel. Et c'est vraiment ce qu'il y a le plus grand dans la vie de l'intelligence, là. D'être au service d'un amour spirituel à l'égard de Dieu, un amour contemplatif à l'égard de Dieu et à l'égard du prochain. Être attentif à nos frères pour que leur intelligence s'épanouisse. Dieu le demande, le réclame. Ceux qui cherchent la vérité et qui la cherchent vraiment ont un droit très spécial pour qu'on les aide, pour qu'on les soutienne, pour qu'ils se mettent vraiment à l'école de Dieu, pour qu'ils aient conscience que Dieu est là comme le premier maître pour leur intelligence. Dieu désire que nous aimions, que nous l'aimions. Et il veut que nous l'aimions librement. Et c'est pour ça que c'est un Dieu caché. Si Dieu se manifestait plus, nous serions pris par sa beauté, par son éclat, par sa gloire, on serait saisi et il n'y aurait plus cette liberté qui existe actuellement et qui existe très forte actuellement. Quand on est dans un milieu où il y a une majorité de catholiques, où tous les postes importants sont tenus par les catholiques, tous les mariages se font vraiment entre catholiques. On se dit catholique quelquefois pour avoir une fille qu'on aime bien, qui est catholique. C'est pas ce que Dieu cherche. C'est peut-être l'occasion pour lui de se convertir. C'est vrai. D'aimer quelqu'un, de sortir de lui. Dans un monde purement catholique, les postes importants sont catholiques. Alors quelquefois, on se dit catholique pour avoir un poste important. Dieu a horreur de ça. Et on comprend très bien. Parce qu'au fond, c'est de se servir de Dieu, de l'amour de Dieu, la chose la plus sacrée et la plus sainte. Se servir de cela pour avoir une place humaine importante, pour gagner davantage d'argent. Tandis que si Dieu reste un Dieu caché, il y a immédiatement cet immense avantage qu'aimer Dieu, c'est librement que nous l'aimons. Parce que nous avons découvert qu'il était le premier qui nous avait aimés. Et qui nous avait aimés d'une façon telle qu'il avait créé notre âme. Et qu'il gouvernait pour que nous restions dans la vérité. Et qu'il gouvernait notre intelligence et notre volonté pour que nous soyons capables d'aimer librement. C'est très important de voir le respect que Dieu a de notre liberté. Cela, ça qualifie le gouvernement paternel de Dieu sur nous. Parce que on ne peut pas aimer vraiment si on n'est pas libre. Il n'y a rien de plus subtil, de plus sensible que l'amour. Si on impose un amour, tu dois aimer. Il n'y a rien qui arrête plus l'amour. C'est comme un été noir qui arrête la petite flamme. L'amour réclame la liberté. Et je dis bien, ce n'est pas la liberté qui nous fait aimer, c'est l'amour qui se transmet et qui nous donne la liberté d'aimer. Parce que c'est très important de voir, est-ce que la liberté pousse avant l'amour ou pousse en conséquence de l'amour. Si je suis cartésien, je dis ça, c'est parce que tous les Français sont cartésiens. Si je suis cartésien, la liberté est avant l'amour. On dit qu'on est libre pour aimer. Non. L'amour est premier. Il faut aimer pour être libre. Et nous avons tous fait cette expérience. Si on est un petit peu lucide, c'est dans la mesure même où l'on aime qu'on devient libre. Vous voyez ? Parce que la liberté présuppose toujours, avant qu'elle apparaisse, un amour à l'égard d'un bien qu'on considère comme notre fin. L'amour qu'on a pour une personne et un amour profond qu'on a pour une personne humaine va immédiatement engendrer en nous une liberté à l'égard de tous les moyens qui nous permettent de nous approcher de cette personne qu'on aime. Si on l'aime beaucoup, si on l'aime intensément, il y aura plus de moyens de s'approcher d'elle, de la rencontrer, d'être sur sa route, de faire chemin commun avec elle. Tout ça présuppose un amour très profond de la finalité, d'un bien qu'on aime pour ce bien, pour lui-même. Et on aime les autres biens en fonction de ce bien. C'est ça la liberté. La liberté n'est jamais première. Elle naît à partir de l'amour. Et si on a dans son cœur un très grand amour, on a une très grande liberté. Parce que la liberté, c'est pas du tout de faire n'importe quoi. on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que la liberté, ben, c'est que je peux tout faire. Ben, pas du tout. La liberté, c'est de pouvoir faire librement une activité qui est bonne. Si vous faites librement une activité qui est mauvaise pour les autres, pour vous, vous-même, vous vous mettez en prison. C'est extraordinaire, ça. Vous-même, vous diminuez votre champ de liberté. Le voleur ou l'homme orgueilleux qui veut paraître libre, on dégonfle tellement vite cette baudruche, il paraît libre, il aime de manifester qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais quand vous regardez un peu profondément, vous voyez que l'orgueil est une terrible prison. L'orgueilleux n'agit que pour se manifester, pour être regardé, pour qu'on s'intéresse à lui. Et il fait tout en fonction de ça. Donc il est très limité dans son activité. L'homme qui aime Dieu ou qui aime le prochain, mais fait tout en fonction de cet amour. Mais l'amour de Dieu est infiniment plus grand. Et donc, il peut drainer, il peut assumer une quantité d'autres biens, beaucoup plus que n'importe quel autre bien terrestre, n'importe quel autre bien qui me regarde. Il faut comprendre que cette conduite de Dieu sur chacun d'entre nous, pour développer notre intelligence et développer notre amour, va nous rendre libres. Personne n'est aussi libre, personne n'a une liberté aussi grande que celui qui cherche vraiment la vérité. Il s'intéresse à tout. Il respecte tout. Et il désire prendre tout pour cette recherche de la vérité. Alors, on comprend comment Dieu qui nous éduque, qui veut que nous devenions intelligents pour lui, que nous sachions discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Nous comprenons comment Dieu nous laisse libres dans nos choix. Et c'est dans nos choix que la liberté se manifeste le mieux, d'exercer telle activité ou pas l'exercer, de choisir telle orientation de vie et non pas une autre. C'est toujours dans le choix que nous découvrons cette liberté que nous avons, qui vient de Dieu. Dieu permet cela. Si Dieu nous laisse libres à l'égard du choix d'une quantité de biens matériel, d'une quantité de biens temporels, si Dieu nous laisse libres, nécessairement, il y aura des moments où nous nous laisserons prendre par la passion. La passion de colère, parce qu'on est libre, on mettra les autres sous notre autorité, on sera despote, on se servira de notre amour pour la vérité, pour écarter tous ceux qui ne cherchent pas la vérité, en les méprisant, on sera libre. Nécessairement, si Dieu nous laisse libres, il y aura des moments où on succombera par fatigue, où on succombera parce que il y a des choses nouvelles qui sont apparues, qui nous intéressent et qui quelquefois nous séduisent. Pas nier que dans le monde d'aujourd'hui, les séductions à l'égard de la concupiscence, à l'égard de la jouissance malsaine, est beaucoup plus grande qu'il y a 100 ans. Notre monde est un monde de liberté terrible, qui fait que des jeunes sont pris par toutes ces séductions. Le suicide des jeunes, qui n'a jamais été aussi grand que maintenant. Des jeunes de 14 ans qui se suicident. J'ai appris ça l'autre jour, le dernier qu'on m'a annoncé. Un petit étudiant de 14 ans. Et c'était son ami qui a découvert qu'il s'était suicidé. Il s'était pendu. Et rien dans sa vie ne soupçonnait ça. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Tu le sais peut-être ? Non. La veille, nous étions encore vus. Il était normal. Comme de coutume. Je sais qu'il est parti se promener le soir en fraude. Il était dans un collège. Il s'est promené, puis il rentrait tard. Il est allé se pendre dans un endroit secret, caché, très loin. Des lieux ordinaires où l'on passe. Et c'est son ami de 14 ans, même âge que lui, qui l'a découvert pendu. Et ce gosse de 14 ans, voir son ami de 14 ans se suicider, presque sous ses yeux. Et ça fait comprendre combien notre monde et menteur, trompeur, il vit de séduction. Et les séductions, quand on en est déçu, on est capable de disparaître, de suicider. Pourquoi Dieu laisse-t-il ça? Si Dieu est notre Père, Dieu nous laisse une liberté très grande. Dieu laisse à ses gosses une liberté toujours plus grande. La liberté, la possibilité de faire des bêtises, de faire un suicide est beaucoup plus grande actuellement qu'il y a 100 ans, 50 ans. C'est terrible. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire ça? Pourquoi Dieu laisse-t-il au mal une force si grande? La seule réponse, au point de vue philosophique, au point de vue théologique, c'est le mystère de la croix du Christ, pour nous, qui est la seule réponse. Et au plan philosophique, purement philosophique, la seule raison, c'est que Dieu nous aime pour qu'on l'aime. Notre bonheur ne peut être que dans l'amour. Une recherche de vérité qui permet à notre amour, à notre volonté d'aller plus loin. Dieu, en nous laissant libres, peut avoir des serviteurs, des amis libres, et qu'il l'aime librement. Il pourrait très bien prendre notre chemin, mais ils prennent ce chemin-là pour aimer Dieu librement. Et Dieu, choisissant ce gouvernement, cette modalité particulière de nous conduire, a nécessairement vu le poids de la sensibilité du homme. Dieu laisse notre liberté, sachant qu'il pourrait y avoir ces dégâts terribles. Surnaturellement, au point de vue de la foi chrétienne, nous savons qu'il y a un ennemi. L'Apocalypse nous montre ça admirablement. Et l'Apocalypse, c'est le livre du gouvernement de Dieu. C'est pour ça que c'est si intéressant. Mais c'est au plan chrétien. Et dans l'Apocalypse, on nous montre que toutes les luttes que nous voyons autour de nous, dans lesquelles nous sommes engagés, toutes ces luttes, ce sont des luttes du dragon face à la femme, c'est-à-dire Marie. Toutes les luttes. Le dragon, c'est le démon. Hein. C'est le démon qui a deux formes. Hein. Il y a deux symbolismes, le démon, dans l'Écriture. Hein. Le serpent et le dragon. Le mensonge et la force. Et il joue toujours sur les deux. Il y a une stratégie du démon. La stratégie très nette. Une stratégie très souple et qui se voit. Une stratégie qui est toujours pour nous éloigner du Christ, faire que nous rejetons le Christ. C'est ça sa stratégie. Qu'on n'aime plus. Le démon a horreur de l'amour. Et il fait tout pour supprimer l'amour. Et Marie, la femme fait tout pour nous remettre sur le bon chemin, la route de l'amour. Et c'est vrai que si le philosophe ne peut pas parler du démon, il peut parler des forces du mal. sans savoir exactement d'où viennent ces forces du mal, et les constate. Il est obligé de regarder attentivement ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Il est bien obligé de dire qu'il y a des forces du mal qui sont d'une violence toute particulière. Et ces forces du mal essaient, par les séductions, par le mensonge, de nous attirer vers le bas, toujours. De supprimer en nous tout désir spirituel. Et nous faire tomber de telle façon qu'on est désespéré. Et Dieu nous rappelle qu'il ne veut pas le désespoir, qu'il veut le désir du bien, le désir de l'amour, et que si même si on est faible, Dieu accepte cette faiblesse pour qu'on mendie sa miséricorde et sa force. Dieu permet à ces forces du mal d'être très fortes pour que la lutte soit d'autant plus forte et que la victoire du bien soit d'autant plus noble, grande, belle. C'est cela que Dieu permet, que si nous luttons, notre amour sera plus parfait, plus purifié. Et ces luttes existent parce que Dieu aime l'amour libre. Et Dieu, n'étant pas un tyran, veut un amour très libre. Un amour qui soit vraiment capable de nous donner la liberté. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu permet certains et que le prochain, c'est que Dieu veut que nous aimions d'une façon tout à fait libre, pour que notre amour soit plus qualitatif et plus vrai. Et c'est pour ça qu'il permet ces luttes. Il y a dans le gouvernement divin des permissions. On les voit tout le temps. Dieu permet que le mal s'étende. Dieu permet que le mal qui n'existait pas dans tel endroit subitement se fait exister. Dieu permet cela pour que nous puissions lutter avec plus de courage et plus librement. Toutes les permissions de Dieu sont en vue de notre bien et pour notre bien, pour un bien plus grand, pour que nous montions toujours, que nous allions toujours plus haut. Dieu n'aime pas qu'on s'arrête d'aimer et qu'on aime toujours de la même façon. Dieu veut que notre croissance d'amour soit une croissance d'amour de plus en plus libre pour que notre amour soit plus pur, plus vrai. C'est vrai à son égard et c'est vrai dans la charité fraternelle. Vous voyez, c'est le côté magnanime de Dieu. Dieu aime avec grandeur. Dieu aime dans l'éternité. Nous nous précipitons et on veut que tout se réalise parfaitement et on s'épuise souvent. Dieu, pour que nous soyons plus proches de lui, nous aime, d'une façon magnifique. Il faut lui demander, quand on est dans l'obscurité et qu'on ne voit plus très bien, les permissions de Dieu sont telles qu'on ne voit plus très bien le bien que Dieu veut pour qu'on coopère avec lui. Nous devons lui demander. Le mal ne provient pas de Dieu. Ces forces tyranniques mauvaises ne proviennent pas de Dieu. Le philosophe constate, mais ne donne pas l'origine. Il crée des mythes qui sont comme des explications. Mais le philosophe d'un chrétien qui lit l'Écriture s'aperçoit bien que le démon, il a une lutte terrible. Il subit une lutte terrible. Mais Dieu le maintient dans l'être. Il est toujours dans l'être. Mais il n'aime plus. Il ne sait plus aimer. Nous puissions comprendre que Dieu permet ces milieux quelquefois très lourds, c'est pour qu'on puisse aimer librement, qu'on puisse se rassasier auprès de lui, comme auprès d'une source, parce qu'il est celui qui nous aime et qui veut nous aimer, et qui veut nous sauver.